Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, ça y est, c'est parti, il est 6h58 et vous êtes bien dans Apolline Matin, sur RMC à la radio, sur RMC Story à la télévision, mercredi 1er juillet, quand les bouilloires thermiques ont pourtant des DPE classés A, ces fameux classements DPE, eh bien c'est ce qu'ont découvert des habitants avec la canicule. Alors est-ce qu'il faut revoir ces classements? Comment sont-ils faits? Est-ce que c'est absurde? Dans 10 minutes, la patronne du site PAP.fr, de particulier à particulier, les ventes immobilières, sera dans ce studio. Je lui pose la question alors qu'on attend des nouvelles températures encore très très élevées à partir de ce week-end. Et vous, est-ce que vous vivez dans des bouilloires thermiques? Comment est-ce que vous vous préparez aux prochaines vagues de chaleur? Et puis, est-ce que ça, c'est désormais quelque chose que vous prenez en compte lorsque vous décidez de déménager? Appelez-nous au 3216 ou sur le WhatsApp 0612 424 424.
Et c'est terminé! Direction Philadelphie pour les Bleus, la qualification.
Les Bleus qualifiés et passés en 8e de finale. Victoire 3-0 cette nuit contre la Suède. Ils affrontent le Paraguay samedi pour une place en quart. Une équipe de France impressionnante, d'une solidité inouïe. C'est ce que nous dira notre consultant foot, Eric Dimeco. Il sera là à 7h40. Vous venez échanger évidemment avec lui. Les Français sont-ils les grands favoris de la compétition? Je dis sont-ils, mais enfin, on est tous d'accord pour dire qu'après ce match de cette nuit, ils le sont très clairement. Notez aussi qu'à 8h30, tiens, je reçois un candidat à l'élection présidentielle. Il est maire de Cannes, David Lisnard. Ça, ce sera donc dans le face-à-face. Excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Du cœur et de l'envie, les Bleus ont encore éclaboussé le mondial de leur talent. Vainqueur de la Suède, 3-0. Qualifié pour les huitièmes de finale avec le Paraguay en ligne de mire. La canicule au cœur d'un vif échange hier entre le Premier ministre en colère face aux écologistes qui l'accusent d'avoir des morts sur la conscience et qui appellent à la censure. Et le congé naissance qui débarque pour le plus grand bonheur des jeunes parents.
Qualifiés sans trembler, les Bleus.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Brillant, sublime, magnifique, les superlatifs ne manquent pas ce matin dans la presse pour qualifier la prestation de notre tricolore vainqueur de la Suède 3-0. Mbappé par deux fois et Barcola permettent donc aux Bleus de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale à l'issue d'un match quasi parfait que vous avez vécu sur RMC avec au commentaire Jean-Louis Tour. On vous retrouve Jean-Louis ce matin direct de New York, tout en maîtrise, l'équipe de France impressionne, début du jeu, de la qualité. Les Bleus semblent plus que jamais tracer leur chemin, Jean-Louis.
Et oui, ils ont répondu présents donc sur le premier match à élimination directe. Cette nouvelle pression du couperet qui peut tomber en cas de défaite a été bien digérée par le groupe, comme l'a expliqué le capitaine Kylian Mbappé.
C'est à nous les joueurs qui avons joué plusieurs Coupes du Monde, qui avons connu ce genre d'atmosphère par le passé, de guider les plus jeunes. Mais c'est juste la gestion des émotions, la gestion du stress, de se dire que peut-être qu'on peut rentrer à la maison. Mais je pense que ce groupe est parfaitement conscient de ce qu'il joue et on est préparé à cette éventualité.
Alors les Bleus continuent de dire qu'il y a encore des marches à gravir, des progrès à faire dans certains secteurs de jeu, mais malgré tout, il faut profiter, le sélectionneur Didier Deschamps.
Beaucoup de fierté, on est en mission, moi aussi, avec eux. Il faut apprécier, on sait que dans 4 jours on en a un autre, mais on est là pour ça, les joueurs sont là pour ça. Quand on fait bien les choses et bien ensemble, avec un très bon état d'esprit, beaucoup de fierté.
Les Bleus sont sûrs de leur force et ils le montrent à chaque match. 3 buts inscrits dans cette Coupe du Monde. Reste à reproduire cette performance lors de la prochaine étape contre le Paraguay samedi.
Et ce sera à 23h sur RMC à Philadelphie. Le Paraguay sur la route des Bleus, donc en 8e de finale comme en 98, un signe peut-être. À l'époque, les Bleus s'étaient qualifiés 1-0. À l'issue des prolongations 28 ans plus tard, les supporters tricolores réunis dans une fan zone de Noisy-le-Grand ne voient pas d'autre scénario que la victoire.
Le Paraguay, bon, ils sont gentils, mais voilà.
Moi, je pense que la France, voilà, il n'y a pas de doute hein, sur le résultat du match.
Bah, le Paraguay, sans manquer de respect, c'est un pays qui fait pas peur. Hein. Ça va passer en quart très facilement.
Je sais que le Paraguay, on va passer.
Les Allemands, ils ont perdu contre la Paraguay. Nous, on va pas perdre. Nous, ce sera facile, nous. On a Mbappé, il va faire le taf.
Et pour le savoir, rendez-vous donc sur RMC samedi 23h France-Paraguay. La Norvège, tombeur de la Côte d'Ivoire 2-1, affrontera en 8e le Brésil. À retenir également la qualification cette nuit du Mexique 2-0 face à l'Équateur. Il est 7h03, vous écoutez RMC. La perspective d'un nouvel épisode caniculaire se confirme. Les températures devraient repartir à la hausse dès la fin de la semaine, alors même que le bilan du dernier épisode n'a pas encore été établi. Si on sait qu'au moins 300 décès de plus que la normale ont été enregistrés en mai, Santé Publique France évoque 1 000 000 de morts supplémentaires en juin. Ce pourrait être beaucoup plus, 10 000. C'est ce que disent les écologistes au cœur d'un échange tendu hier à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre qui a reconnu Sonia Gobry être sortie de ses gonds.
Vous avez des morts sur la conscience. C'est cette phrase de l'écologiste Cyriel Chatelain qui provoque la colère de Sébastien Lecornu.
Je ne souhaite pas polémiquer. C'est votre question qui a introduit cette polémique. Vous ne pouvez pas de vous-même dire que rien n'a été fait ces dernières années. Donc de grâce, Madame la Présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
Cyriel Chatelain réplique en annonçant le dépôt d'une motion de censure.
Quelle fébrilité de la part du Premier ministre. Je ne l'ai jamais vu sortir de ses gonds comme ça. C'est vraiment qu'il doit avoir mauvaise conscience. Le gouvernement sait qu'il n'a pas agi, pour limiter le réchauffement climatique qui continue à s'aggraver.
Cette motion de censure a peu de chances de passer. Le député PS, Guillaume Garot.
Est-ce qu'une motion de censure serait la réponse à tout ça au moment où il y a besoin d'agir? Moi, j'en suis pas convaincu.
Pas convaincu, c'est ce que répondent aussi des députés RN et leurs voix sont nécessaires pour faire tomber le gouvernement.
Et ce matin, 4 départements du sud de la France restent en vigilance orange à la canicule. 6 autres sont concernés par un risque très élevé d'incendie. 2 dates à retenir maintenant, 18 avril et 2 mai 2027, jour du premier tour et second tour de la présidentielle. Élysée a tranché, respectant les délais fixés par la Constitution. Et pour voter, il faudra s'adapter puisqu'elle tombe en pleine période de vacances scolaires. La fermeture du collège de Bétarame, près de Pau, à la fin de la semaine, établissement catholique au cœur du scandale, symbole de l'affaire Bétarame, théâtre de sévices physiques et sexuels. Pour autant, ce n'est pas la fin de l'institution qui va déménager à quelques kilomètres de son site historique. Inès Zegloul.
Dès la rentrée prochaine, tous les collégiens de Beau-Rameau, le nom de l'établissement depuis 2009, prendront le chemin des cours dans la commune d'Igon, à seulement 4 km de là, mais loin du giron des pères de Bétarame. Les 170 élèves, l'équipe éducative vivent donc leurs dernières heures dans l'enceinte de l'ancien bâtiment. L'ambiance devenue pesante, les encadrants, les familles attendaient donc impatiemment le déménagement. Il était temps, nous confient les représentants de l'enseignement catholique. Une page se tourne donc pour le site, certes, disent-ils, mais pas pour les victimes. Restent les enjeux de réparation. Et puis reste aussi cette question, que va devenir l'intimidant bâtiment de Bétarame? Rien n'est figé, mais certains dans l'enseignement catholique plaident en tout cas pour qu'il devienne un lieu dédié à la mémoire.
Une première en 10 ans, le montant des allocations chômage ne sera pas revalorisé en juillet, annonce de l'UNEDIC hier en dépit d'une proposition des syndicats qui souhaitait une hausse à hauteur de l'inflation. La CGT dénonce une outrance patronale. C'est l'une des nouveautés de ce 1er juillet, l'arrivée du congé naissance. 1 ou 2 mois en plus du congé maternité et paternité pour les deux parents simultanément ou en alternance, fractionnable et rétroactif pour tous les enfants nés en 2026. Ce congé rémunéré à hauteur de 70% pour le premier mois. 60 pour le deuxième était très attendu par les nouveaux parents. Reportage à Paris, Louis Salé.
Ahmed sort de la maternité avec sa fille âgée de quelques jours. Cet ingénieur qui entame son congé paternité prendra également un congé de naissance.
J'envisage de prendre 2 mois à partir des 6 mois de la petite. Ouais. Et on retarde un peu l'entrée à la crèche de la petite. Ça me permet que la mère elle se repose un peu, on va dire.
Soulager la mère, c'est aussi ce que souhaite Robin.
Alors oui, on perd 30% de salaire le premier mois, 40% le deuxième mois, mais on veut vraiment profiter au maximum du bébé et donc on fera l'effort financier nécessaire, il n'y a pas de problème.
Pour Maxime, en revanche, c'est plus compliqué.
Moi, j'aimerais bien, mais vous savez, dans le foyer, on ne peut pas se permettre tous les deux de prendre ce congé.
C'est donc sa femme qui s'arrêtera plus longtemps, car son salaire est plus faible. Même chose pour Anna, dont le bébé a 3 mois.
Les hommes gagnent beaucoup plus. C'est le salaire principal dans le budget familial.
Et ce congé de naissance qu'elle démarre aujourd'hui tombe à pic, car son congé maternité vient de se terminer.
Trouver une garde, c'est très très compliqué. Toutes les crèches, les assistantes maternelles, tout commence en septembre.
Elle affronte donc un peu plus sereinement son été.
On termine avec ce coup de massue pour Bordeaux, exclu de toute compétition nationale par la DNCG. Le sextuple champion de France de Ligue 1 qui joue en National 2 devra repartir de la 6e division l'an prochain, à moins que les Girondins qui ont fait appel ne rassemblent les 9 millions d'euros réclamés par le gendarme du foot français avant le 10 juillet.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. On part au 32-16. Christophe qui est avec nous et qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Comment ça va Christophe? Vous êtes VTC mais vous n'avez pas dormi cette nuit je pense. Pas beaucoup en
c'est
tout cas.
Pas beaucoup.
Vous avez veillé pour le match?
Oui oui tout à fait. Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça y est vous êtes totalement... vous marchez sur les eaux.
C'est un beau rayon de soleil dans le football. Parce qu'en ce moment c'est très dur pour tous les supporters bordelais. Mmh. Mais ouais cette équipe de France ça fait rêver là.
Elle fait rêver là, ça y est. On a envie de rêver là. En ce moment on a envie de se projeter, on a envie d'être fier quoi.
C'est ça.
Vous l'avez regardé, écouté, vous étiez où?
Oui, oui, on a regardé à la maison. Le petit avait avant la fin de sa saison de foot au club.
Ouais.
Et puis voilà, et puis après, on est rentré pour regarder le match.
Et là, ça l'a bien motivé, je pense.
Pour lui-même. Encore, on est d'accord.
Là, on espère qu'il dort quand même un petit peu là.
Oui, oui, il dort. Mercredi, pas d'école, donc il dort.
Ouais. Il dort. Il dort, le vénard, exactement. Vous avez encore un peu la voix cassée, mais vous enchaînez là. Vous êtes au boulot ou vous reposez
oui,
un peu?
Oui, je vais chercher des clients. Je suis au travail. Bon. Je me lève à 6h tous les matins et voilà.
Match ou pas match, vous vous levez à 6h. D'ailleurs, le prochain sera aussi à 23h. Hein,
ce mais
sera
samedi soir.
Ce sera samedi soir, donc on pourra faire la grince mat dimanche. Merci Christophe, en tout cas, d'être passé par le 32-16 comme Christophe. Vous n'hésitez pas, vous venez partager avec nous. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Jusqu'à 35, voire 40 degrés à l'intérieur d'appartements. Pourtant, notez A ou B dans les fameux DPE. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Vous dirigez le site pap.fr, particulier à particulier. Vous alertez depuis quelques jours sur ce phénomène. C'est absurde. On se dit qu'ils sont classés A ou B, qu'ils sont censés être extrêmement bien isolés. Et en réalité, visiblement, il y a un énorme trou dans la raquette. La chaleur va revenir à partir de ce week-end et les bouilloires thermiques sont aussi des logements pourtant bien isolés. C'est votre parti pris dans un instant, vous alertez et n'hésitez pas, vous aussi qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Vous vivez peut-être dans une bouilloire thermique, dites-nous comment ça se passe pour vous. Et puis, si vous envisagez, comme certains, de déménager et si ces questions sont désormais au menu de vos choix, il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC et sur RMC Story. Alors certes, ça se rafraîchit, mais attention, la chaleur va revenir. Et on parle appartement, maison ce matin, des baies vitrées, des murs épais, idéal pour l'hiver, mais inadapté aux canicules. Bonjour Corinne Joly, vous êtes la présidente directrice du site pap.fr, la plateforme immobilière entre particuliers. Un tiers des logements qui sont classés A ou B dans les fameuses DPE, les diagnostics de performance énergétique, sont en réalité des bouilloires thermiques. Mais comment c'est possible? En fait, on s'est complètement planté dans les calculs?
En fait, on s'est concentré sur l'hiver. Donc, on a traité les logements pour qu'ils soient bien isolés et potentiellement, et c'est ça le problème, pour qu'ils laissent rentrer la chaleur en hiver, voire qu'ils maximisent le fait de faire rentrer la chaleur. Le problème, c'est que l'isolation, ça marche dans les deux sens et qu'en été, on va avoir des logements où la chaleur rentre et où ensuite elle est emprisonnée à l'intérieur. Ça, c'est en fait des mesures qui sont performantes pour l'hiver, mais qui sont totalement inadaptées à l'été.
Donc, il faut revoir les DPE?
Alors, moi, je n'ai pas envie, dans l'urgence, là, qu'on refasse un plan canicule.
Tout le problème, j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde bosse dans l'urgence, là. Alors,
exactement.
Qu'on aurait sans doute pu anticiper. Mais avec vous, on va essayer, justement, de se projeter.
Alors, on est capable de traiter les logements pour l'hiver et pour l'été. C'est possible, techniquement. On sait le faire, et on sait le faire depuis des années. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire des normes au gré de l'actualité. Et donc là, c'est pour ça que je me méfie de ceux qui réclament, limite, que cet été, on sorte une nouvelle norme pour répondre au problème. On a besoin d'un plan global sur le logement qui tient compte de l'ensemble des problèmes et pas de vision segmentée liée à la dernière
actualité. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne prenne pas en compte les deux questions, c'est-à-dire à la fois la chaleur et le froid?
Alors c'est extrêmement simple. Cette canicule-là, on est d'accord qu'on l'a pas tous les ans.
Mais la bouilloire thermique, moi je me souviens d'en avoir parlé ici même il y a un an. Je veux dire, les bouilloires thermiques, elles existent, elles ont été empirées évidemment par la canicule, mais des personnes et des auditeurs qui nous appelaient, je me souviens encore l'été dernier, d'une femme qui travaillait la nuit, qui rentrait à la maison et qui n'était pas capable de dormir la journée parce qu'elle disait que son appartement, il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Effectivement, c'est ce qui arrive quand on a une bouilloire thermique. Maintenant, c'est un terme qu'on utilise depuis 3 ou 4 ans.
Avant,
on s'est concentré sur les passoires thermiques. C'est-à-dire que les passoires thermiques, ça fait en revanche 15 ans qu'on en parle. C'est l'hiver. Et puis, les dernières années, avec la hausse du coût de l'énergie, on s'est surtout concentré sur la facture de chauffage. Donc, pour optimiser la facture de chauffage, et toutes les normes vont dans ce sens-là, on a travaillé l'hiver. Et en travaillant l'hiver, on peut dégrader l'été si on n'y pense
Est-ce
pas à ce moment.
Est-ce qu'il faut au minimum assouplir, alors dans ces cas-là, le fameux DPE ?
Alors, le DPE...
Est-il encore fiable, si je puis me permettre ?
Il est fiable si on comprend ce qui compte. Il compte la consommation d'énergie. Le problème de l'été, ce n'est pas un problème de consommation d'énergie. Donc, le DPE, oui, va probablement falloir le revoir pour qu'il soit plus, qu'il donne une vision plus globale du logement. Mais attention, parce que dans le logement, il y a encore d'autres problèmes. Et là, il y en a un qu'on va aborder en septembre à coup sûr, c'est le manque de logement. C'est-à-dire que là, j'entends notamment les écologistes, on va pas se mentir, c'est eux qui avaient le plus parlé des problèmes de bouilloire thermique. Et donc là, ils fanfaronnent et ils accusent le gouvernement de manque de vision. Mais les écologistes, ils veulent mettre des interdictions de louer dans tous les sens. Et si on met des interdictions de louer, c'est le manque de logement dont on va parler en septembre. On filmera des étudiants qui n'arrivent pas du tout à se loger. Il nous faut un plan global,
ça,
intelligent, qui dure 10 ans.
C'est une des conséquences, imprévues ou biaisées d'une décision, notamment de protection normalement des logements.
La conséquence,
c'est qu'il y a moins de logements sur le marché.
Oui, quand on fait des interdictions de louer, ça enlève des logements du marché. Et tout ça est la conséquence d'une politique faite au gré de l'actualité, au gré des phénomènes qui font du bruit. Donc en ce moment, c'est la canicule. Dans 2 mois, ce sera le manque de logements.
Et le projet du gouvernement pour remettre sur le marché 700 000 logements classés F ou G, ce qui sont pour le coup des passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'on comprend bien quand on vous écoute qu'en réalité, ce fameux DPE, il est quand même plus complexe qu'il n'en a l'air. Et que c'est pas parce qu'on est classé A ou B qu'on ne va pas avoir d'autres problèmes dans ce logement. Est-ce qu'il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout et ouvre à la location des logements qui jusqu'à présent ne l'étaient pas ou ne pouvaient pas être loués?
Alors, je pense que là, c'est une mesure qui est quasi obligatoire parce que le plan sur la rénovation énergétique, il était pas réaliste. Il y avait absolument pas le temps dans les délais de faire les rénovations. Et on voit même que sur le sujet de comment on rénove, on est en train de découvrir un petit peu le problème des bouilloires thermiques. Donc, il va falloir aussi changer la façon dont on...
Ça n'était même pas vraiment pris en compte par les derniers plans de rénovation.
Donc, on voit qu'on est sur un plan qui est précipité. Et puisque c'est précipité, ce n'est quand même pas légitime qu'on retire des logements du parc. Alors que finalement, on ne sait même pas encore exactement comment on doit rénover. Enfin, dans l'absolu, on le saurait, mais le DPE a poussé à faire des rénovations contre-productives pour l'été, notamment en poussant à isoler encore plus certains logements, alors qu'ils ont de grandes ouvertures qui laissent rentrer la chaleur. Et donc, en faisant une rénovation pour améliorer son classement, on peut créer une bouilloire thermique là où on n'en avait pas. Donc, on voit globalement que le plan n'est pas prêt. Et donc, il faut accepter que ça prend du temps. Il faut un peu de courage et dire, en fait, ce ne sera pas réglé l'année prochaine. En fait, le logement, c'est long. Ça prend des années. On a besoin d'un plan intelligent qui tient compte de l'ensemble des problèmes qu'on a, dont le manque de logement, et qui dure 10 ans. Parce que le problème de la gesticulation, c'est que, il y a 10 ans, en fait, on connaissait déjà tous ces problèmes. On a gesticulé pendant 10 ans. Au final, aucun n'est réglé. En essayant d'améliorer un problème, on a dégradé les autres. Rien ne va mieux.
Merci beaucoup Corinne Joly pour votre diagnostic à vous qui n'est pas flambant franchement quand on voit effectivement les absurdités du système où on a voulu améliorer d'un côté et dégrader de l'autre. Vous êtes présidente directrice du site PAP.fr, la plateforme immobilière entre particuliers. Il est 7h20 sur RMC et RMC Story. L'historien du matin, Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Le fantasque roi de Thaïlande est en visite en France.
Et oui, un roi ouvertement polygame qui passe plus de temps à dépenser sa fortune qu'à gérer son propre pays. Son surnom, c'est la reine du shopping.
La reine du shopping.
Absolument.
Dire dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face et mon invité à 8h30, ce sera le maire de Cannes, David Lisnard. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier, notre historien maison. Ça n'était pas arrivé depuis 66 ans. Cette semaine, le roi de Thaïlande est en visite d'État en France.
Oui, et ça s'inscrit dans le cadre des 170 ans des relations diplomatiques entre nos deux pays. Le dernier président français à avoir reçu un roi de Thaïlande, c'était le général de Gaulle en 1960, hein, donc ça date. Le roi de Thaïlande actuel, qui est donc en France jusqu'à demain, il s'appelle Ramadis. Lui et sa femme ont eu le droit à tous les honneurs, notamment à un dîner d'État donné par Emmanuel Macron à l'Élysée.
Ce roi, il appartient à l'une des plus vieilles dynasties du monde.
Oui, c'est la dynastie des Chakriens. Cette famille règne sur la Thaïlande depuis 1782, donc avant la Révolution française. C'est une monarchie constitutionnelle sur le modèle de l'Angleterre, avec un parlement, un gouvernement, un premier ministre. Mais le roi a quand même pas mal de pouvoir et beaucoup de prestige. Le père du roi actuel, celui qui est à Paris, c'était Rama IX. Il était adulé dans son pays. Son règne a duré plus de 70 ans, soit le quatrième règne le plus long de toute l'humanité.
Bon, alors son fils, l'actuel roi, n'est pas tout à fait considéré comme étant à la hauteur du père.
Pas vraiment, hein, non, ça n'a rien de le dire, Apolline. Ramadis est donc roi depuis 10 ans et il fait surtout parler de lui pour ses frasques. Hein, et ça a commencé avant même qu'il n'accède au trône. En 2007, il avait été jusqu'à organiser une fête d'anniversaire pour son caniche préféré,
ah oui,
qui s'appelait Foufou. Et alors Foufou, il lui a aussi donné un grade militaire très prestigieux, maréchal en chef de l'armée de l'air royal.
Foufou et maréchal.
Voilà, pour un caniche quand même. Pendant les dîners, le chien portait un smoking, il mangeait à table avec les invités, et bien sûr, quand il est mort, il a eu le droit à une cérémonie officielle. Inutile de vous dire que ça n'avait pas beaucoup plu aux Thaïlandais.
C'est exceptionnel. Bon, il n'est pas très travailleur.
Ah ben non, c'est un énorme tir au flanc, hein, qui a énormément d'argent. On estime sa fortune entre 43 et 100 milliards de dollars. Il passe la plupart de son temps en Allemagne, dans la région de la Bavière, et il passe tellement de temps dans les magasins que la presse allemande lui a même donné un surnom. Et ce surnom, c'est la reine du shopping.
La reine du shopping. Exactement. Pendant le Covid, il avait suscité la colère de tout son peuple.
Ben oui, parce que Ramadis avait tout simplement fui son propre pays pendant la pandémie. Voilà, tranquille. Il s'était installé dans un hôtel de luxe en Allemagne avec une centaine de personnes à son service. Et c'est pas tout. Il avait aussi pris avec lui une vingtaine de femmes avec lesquelles il avait des relations. Une sorte de harem, si vous préférez, quoi, quelque chose de totalement sordide. Et d'ailleurs, une des choses qui a le plus choqué les Thaïlandais ces dernières années, c'est le fait que Rama pratique ouvertement la polygamie. Hein, en 2019, il a donné le titre de concubine royale à une de ses maîtresses, je veux dire en plus de sa vraie femme. Hein. À tout ça s'ajoute bien sûr une pratique tyrannique du pouvoir, hein, qui avait donné lieu à des manifestations massives en 2020. Depuis, ce roi de 73 ans s'est assagi et les polémiques se font plus rares.
Et il est donc à Paris jusqu'à demain. Merci Arthur. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Mon invité à 8h30, ce sera le maire de Cannes et candidat à l'élection présidentielle, David Lisnard.
Voilà. Apolline, c'est un peu Jean-Claude Van Damme. Elle aime faire le grand écart. Hier, on avait Fabien Roussel, le communiste, le stalinien, le mangeur d'enfants. Et ce matin, David Lisnard, le droitard, l'ultralibéral, l'exploiteur d'enfants. Ça change. David Lisnard qui vient donc vous voir parce que la canicule va reprendre. Et en tant que maire de Cannes, eh ben, c'est un expert dans la gestion des vieux qui ont chaud. On lui demandera des conseils. Non mais il est concerné. Avec la canicule, Cannes pourrait perdre 100% de sa population à la fin de l'été. Du coup, qui va voter pour lui en plus? Après 12 vagues de chaleur, il va devoir se faire livrer des octogénaires pétés de thunes en camion frigorifique depuis Neuilly, La Baule. Le bassin d'Arcachon, il sera là. Ok, déposez-les devant le Picard. Allez les vieux, votez Lisnard. Non, je déconne. Il n'a pas peur de perdre ses vieux puisqu'il lance sa candidature avec un grand meeting vendredi à Saint-Raphaël par 30 degrés. 30 degrés avant même son entrée en scène. Ouh. À lui, le Danny Briand de la Côte d'Azur. Le Franck Michael Canois. Oh, David Lisnard, c'est mon chouchou. Oh, j'ai chaud. J'ai très chaud. Je connais tous ces tubes. Des caméras contre la délinquance. Arrêtons l'immigration. Amour et libéralisme, c'est mon préféré. Il est trop sexy. Pourquoi tu fais une banderole, Mireille?
Je fais pas une banderole, je lui dédicace ma petite culotte.
Oh non.
Et alors à droite... À droite, Édouard Philippe aussi a lancé sa campagne. Pas le même effet que ça procure chez les gens. Lui, il organise un millier de réunions d'appartements. Vous avez vu ça? C'est pour faire moderne. Il relance les réunions Tupperware. Il est là, la nouveauté 2026. C'est donc le Tupperware Édouard Philippe. Il est hermétique à la critique, transparent et idéal pour réchauffer des vieilles idées de droite. À David Lisnard, il ne peut pas faire ça, des réunions d'appartements. Ce serait beaucoup trop dangereux pour lui. Bonjour madame, je suis candidat à la présidentielle. Je peux vous parler de mon programme?
Oh oui.
oui, oh, très beau brin. Je vous ai déjà vu à la télé, non? Oui, je suis David Lisnard. Je viens vous parler de libéralisme économique, madame. Mademoiselle Chevrillon, allez-y, parlez-moi de la libre entreprise. Vous avez raison, ça suffit. Les carcans, obéir à des normes, lâchons-nous, vivons. Oh oui, fais-moi abandonner toutes les conventions. Pourquoi vous fermez à clé? Je vais y aller, madame. Allez, ne sois pas timide, montre-le-moi ton programme. On n'a qu'une vie, on va pas la gâcher avec des règlements. Je suis libéral, comme Alain Madeleine. Rendez-vous avec, qui sait déjà, David Lisnard.
Oui, voilà, c'est lui. Salut Arnaud, on retrouve Arnaud Demanche évidemment à 8h15. Il est 7h27, à tout de suite pour la météo journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillon. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils sont obligatoires mais encore trop peu dispensés aux élèves. Les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est une information RMC. Seulement 6 élèves sur 10 ont suivi les 3 séances. Jordan Bardella, dans le viseur de l'association Anticor, le président du RN, accusé d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant parlementaire. Et puis les Bleus filent direction les 8e du mondial. Ce sera contre le Paraguay après une victoire écrasante 3-0 contre la Suède.
Ils ont fait beaucoup parler, mais les programmes d'éducation affective et sexuelle ne sont, semble-t-il, pas à la hauteur des promesses.
Chaque élève aurait dû suivre 3 cours depuis septembre, mais c'est une information RMC. Seulement 6 enfants sur 10 ont suivi ces 3 séances. Information que vous nous révélez, Bérangère Bocquillon, chef du service société, en direct avec nous. Bérangère, on est encore très loin du compte?
Oui, ces séances sont pourtant essentielles, hein, parce que les enfants y apprennent que leur corps leur appartient, l'égalité entre les filles et les garçons, la notion d'intimité, de consentement, ou encore les méfaits de la pornographie. Ces 3 séances d'éducation à la vie affective sont obligatoires dans chaque classe, de la maternelle jusqu'à la terminale. Et pour Audrey Chanona, du syndicat des directeurs d'établissement, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Et très vite, certaines académies se sont retrouvées débordées par le fait qu'elles n'avaient pas accès de formateurs. Ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Pourtant, Bérangère, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, ces séances permettent de protéger les enfants.
Et ils entraînent même une libération de la parole. C'est ce qu'explique cette directrice d'école en Île-de-France qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué plusieurs confidences d'enfants.
4 enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant. Qui m'en a parlé? Un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Après, moi, je n'auditionne pas les enfants. Je lance des informations préoccupantes. C'est factuel. On ouvre les guillemets et on cite.
Pour rappel, en moyenne, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste, selon la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants.
Bérangère Bocquillon, chef du service société, en direct avec nous sur RMC. Les océans n'ont jamais été aussi chauds qu'en ce mois de juin. Près de 21 degrés enregistrés en moyenne, annonce l'observatoire européen Copernicus. Et alors qu'une nouvelle canicule se profile en France, à partir de la semaine prochaine, les écologistes à l'Assemblée annoncent le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement pour dénoncer son impréparation. On a les dates ce matin de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce sera le 18 avril pour le premier tour, second tour le 2 mai. Il faudra donc s'organiser, car cela tombe en pleine vacances scolaires de printemps pour toutes les zones. Il est 7h33, l'étau judiciaire est-il en train de se resserrer sur Jordan Bardella? Il y avait hier plusieurs perquisitions sur des soupçons de détournement de fonds européens par le groupe Identité et Démocratie dans lequel siégeait le Rassemblement National. Il y a aussi cette plainte de l'association Anticor contre Jordan Bardella. L'association de lutte contre la corruption l'accuse d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant parlementaire européen. Maître Jean-Baptiste Souffron est l'avocat de l'association Anticor.
Imaginez seulement qu'un candidat à la présidentielle puisse se présenter alors qu'il aurait menti, produit des faux pour tromper la justice. Ce n'est pas acceptable. Là, on sait que l'enquête va pouvoir avoir lieu. On aura le fin mot de l'histoire. On saura si Jordan Bardella a bénéficié d'un système de détournement de fonds publics européens qui était mis au profit de son parti et à son profit personnel tendanciel. On saura s'il a
couvert ce détournement par défaut ou si d'autres l'ont couvert par défaut, on va pouvoir faire émerger la vérité. Il y a de gros enjeux.
Les mineurs accusés de crimes seront-ils bientôt libérés à cause d'un vide juridique ? La question se pose ce matin en ce 1er juillet, date butoir pour régler ce problème législatif. Une disposition de 2019 du Code de la justice pénale des mineurs a été censurée l'an dernier. Maxime Clieruza, service police-justice d'RMC, rien n'a été fait depuis et cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez les magistrats.
Oui, le ministère de la Justice avait pourtant un an pour se mettre en conformité, mais aucun texte n'a été inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Conséquence, entre l'ordonnance de mise en accusation qui clôture l'enquête et le début de son procès, un mineur de plus de 16 ans accusé de crime ne pourra pas être maintenu en détention. Un vide juridique qui inquiète Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats.
Il s'agit en principe des mineurs les plus dangereux, impliqués dans des assassinats, dans le crime organisé, des mineurs qui auraient commis des viols particulièrement graves.
Le ministère de la Justice explique que la situation ne concerne que les nouveaux dossiers et que cela devrait être réglé d'ici la fin du mois par un amendement déposé dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle, un texte actuellement en examen à l'Assemblée nationale et que le garde des Sceaux espère voir voter à la mi-juillet.
Maxime Clieruza du service police-justice d'RMC.
Et ce sera donc France-Paraguay. Quand comment en 98 ?
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on espère la même issue pour cette affiche des huitièmes de finale du Mondial. Cette année, en 2026, les Bleus ont surclassé la Suède hier soir. Victoire 3-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. La France est donc qualifiée pour les huitièmes, mais les supporters de cette fan zone à Paris voient encore plus loin, Camille Borin.
On est en huitième.
Après avoir vu la démonstration française face aux Suédois, Sébastien est confiant pour la suite de la compétition.
On peut se dire qu'au regard de ce qu'ils sont capables de faire depuis 4 matchs et dans les jours à venir, ils vont progresser, continuer à évoluer et puis vraiment à faire des matchs magiques.
Le prochain duel, ce sera face au Paraguay.
Une formalité, juste une formalité.
Les tombeurs de l'Allemagne en 16e de finale ne font pas du tout peur à Lucas.
Aucun stress pour nous, on n'est pas l'Allemagne, donc tout va bien se passer.
Et quand on demande à Samira ce qu'elle imagine pour les Bleus...
Une troisième étoile, évidemment. Ils sont là, ils sont combatifs, il y a tout, il y a tous les ingrédients. C'est la dernière sélection pour Didier Deschamps, on y croit. Ils vont lui faire le cadeau, ils vont nous faire ce cadeau.
Mbappé et ses coéquipiers ont 4 matchs à remporter pour réaliser le rêve des supporters français.
France-Paraguay, c'est donc samedi soir à 23h à Philadelphie. Ce sera évidemment à vivre sur RMC. Et cette nuit, le Mexique s'est qualifié aussi en battant l'Équateur 2-0. Prochain match entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo. C'est le prochain match de ce mondial, c'est à 18h.
Et puis le quintet, ce sera à Enghien, départ 18h30.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 7, le Graal. L'outsider, c'est le 11. L'Ariano, le 7 et le 11.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37 sur RMC au 32-16. Il y a Thierry qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous êtes à Saint-Sauveur de Nice et vous êtes couvreur. Oui. Vous vouliez réagir. Oui. Vous avez entendu tout à l'heure ce que disait la patronne de PAP.fr qui disait qu'aujourd'hui, les fameux diagnostics énergétiques, finalement, presque favorisaient les bouilloires thermiques parce qu'en fait, ils s'occupaient de retenir le froid, mais du coup aussi de retenir la chaleur. Vous qui êtes couvreur, qu'est-ce que vous nous en racontez, Thierry?
Alors, les DPE, c'est bien, mais il faudrait déjà qu'ils soient faits en cours d'installation. Donc, nous, alors moi, en tant que locataire, j'ai vu comment ça se passait et je fais aussi de l'isolation.
D'accord.
Le monsieur qui est venu contrôler le logement où j'habite, il est venu, j'habite déjà dedans. Mon propriétaire a demandé des aides, donc quand on demande des aides, on peut être contrôlé. Il a été contrôlé, mais j'habitais déjà dedans. Donc, tout était fini, donc il ne pouvait pas avoir l'épaisseur d'isolation dans les murs. Mmh. Et... Il n'est même pas monté la tête par la trappe d'accès pour aller voir dans les combles, voir s'il y avait de l'isolation. Le gars, il a juste jeté un coup d'œil comme ça, et il a coché la case. Donc, les gens font des contrôles, mais très, très, allez, on va dire, très...
Oui, pas très sérieux, quoi.
Voilà, pas très sérieux. Donc, je comprends que des fois, ça passe à là. Nous, on a des audits, pareil. On a des audits. Le gars, il monte. On pose la boîte de cellulose parce que c'est un grand pouvoir de déphasage. C'est-à-dire, le temps que les calories passent, c'est plus long que la ligne de verre. Le gars, il passe tout juste la tête par la trappe de vitre. Ça veut dire que si dans le fond du toit, j'ai mis 5 cm, il ne va pas les contrôler. Donc, faudrait déjà que les contrôles soient, je parle des maisons neuves ou des rénovations, puisque il y a des maisons où on peut quasiment rien faire. Les contrôles sont, c'est du pipeau, quoi. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'isolation ne sert pas à arrêter le transfert de calories. Elle sert à ralentir. Ça veut dire quand c'est la période qu'on a eue là, on peut la ralentir, mais quand vous avez 30 degrés la nuit, vous ne pouvez pas ouvrir la nuit pour aérer. Donc, amener le transfert de chaleur, il passe quand même.
Est-ce que ça ralentit? Ça ralentit aussi dans l'autre sens. Donc, c'est très difficile ensuite, une fois que l'appartement est chaud ou que la maison est chaude, de réussir à la rafraîchir.
Tout à fait. Là, moi, par rapport à la période de canicule qu'on a eue, il y a seulement la nuit d'avant, donc pas cette nuit, la nuit d'avant, que j'ai réussi en ouvrant les fenêtres à diminuer la température intérieure. Et pourtant, je suis qu'à 24-25, parce que j'ai des climatiseurs mobiles.
Donc, vous avez quand même, vous, mis des climatiseurs mobiles chez vous.
Si je veux dormir un peu, il n'y a pas d'autre choix.
Donc, vous n'avez pas regretté votre achat, là?
Comment? Non,
vous n'avez pas regretté votre achat.
Ça fait quelques années qu'on les a, en plus. Hein, voilà,
vous ne faites pas partie de ceux qui se sont rués dans les magasins et qui ont trouvé porte close et parfois des pénuries. Hein.
Je vois toujours un peu le mal, donc je vois toujours le moins bien, donc forcément
ça vous a permis d'anticiper. Merci beaucoup Thierry, en tout cas d'être passé par le 32-16. Thierry, donc, qui est couvreur en Charente-Maritime, vous n'hésitez pas comme lui à appeler au 32-16. Il est 7h41 sur RMC et les Bleus ont franchi l'étape.
Avec Olise le crochet pour Kylian Mbappé. Allez, pourquoi pas le doubler? La frappe de Mbappé!
Qualification cette nuit pour les huitièmes de finale après leur victoire contre la Suède 3-0. Bonjour Eric Dimeco, notre fil rouge tout au long de la compétition. Une équipe de France impressionnante, une attaque de feu. Est-ce qu'on a la meilleure équipe de la compétition, Eric?
Ah ben là pour le moment c'est vrai qu'on a impressionné le monde entier, on est impressionné nous-mêmes.
On n'a pas beaucoup dormi mais on est impressionné nous-mêmes. Eric, vous nous le dites dans un instant, et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16 pour venir partager avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h44 sur RMC. RMC Story, ça y est, les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Victoire tranquille, solide des Bleus, 3-0 cette nuit contre la Suède. Bonjour Eric Dimeco. Eric, notre fil rouge tout au long de la compétition, des Bleus ultra dominateurs et qui n'ont pas tremblé.
On attendait ce genre de match, puisque on avait présenté l'équipe de suédoise comme une équipe qui pouvait peut-être nous faire mal offensivement, mais qui avait pas le niveau malgré tout pour gagner ou pour nous amener à une éventuelle prolongation. Voilà, donc les Français ont fait le job, et ils ont fait le job de belle manière. On a quand même beaucoup de chance d'avoir cette belle équipe. On va se régaler pendant toute la compétition.
Une attaque incroyable, hein. 13 buts en 4 matchs et une défense hyper efficace. Est-ce qu'on peut encore monter en puissance ou est-ce qu'on n'a rien à faire d'autre que de rester solide comme on l'est là?
Lors de ce genre de compétition, on monte toujours en puissance, mais on a quand même l'impression, et on l'a vu notamment sur le premier but d'Mbappé, c'est la formule du moment, mais de dire que cette équipe-là est en mission pour aller chercher le titre, mais aussi, on l'a vu, ils ont envie que Didier Deschamps sorte par la très grande porte. Il sortira quoi qu'il arrive par la grande porte, Didier. Mais être champion du monde, en plus avec du jeu et du plaisir pour les supporters, ce qu'on reprochait à son équipe de France, c'est souvent, là ce serait vraiment une sortie énorme pour Didier, et on a l'impression que les joueurs tendent vers cet objectif.
C'est très beau d'ailleurs, c'est même assez émouvant, c'est-à-dire que quand on sait aussi ce qu'a traversé Didier Deschamps et qu'il n'avait pas pu assister au match précédent parce qu'il était aux obsèques de sa mère, on a senti effectivement un collectif, on sent qu'ils ont envie de gagner, ils ont envie de le faire pour le pays, mais ils ont envie de le faire pour lui. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'un respect, d'une envie, presque d'un cadeau, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'on peut, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident hein, en Coupe du Monde, mais c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que ils sont tous tendus vers le même objectif. Il y a des gestes hein, ou il y a des attitudes qui trompent pas sur le terrain. Moi, quand je vois Mbappé qui préfère la donner au lieu de tenter sa chance, ce qu'il fait souvent parce qu'il aime marquer des buts, je me dis ah, il est dans un état d'esprit quand même très particulier. Comme autour de lui.
Ben, c'est généreux. En fait, c'est généreux.
Voilà. Exactement. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est la bonne expression.
Éric, par rapport à ce que tu disais juste à l'instant, on a quand même des années de Didier Deschamps. On a dit on est content, on gagne, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie en les regardant. Et là, on joue avec quatre attaquants. On a Olysée qui fait des retournées de l'espace dans la surface de réparation. C'est du spectacle.
C'est inouï. Ouais.
Même pour celui qui ne serait pas fan de foot, elle est plaisante à regarder cette équipe et on s'éclate, non?
Ben, c'est ce qui manquait à Didier en réalité, puisqu'il y avait toujours ses bémols. Didier, il est pragmatique, il veut gagner à tout prix, il s'en fout de la manière. Ben, on se rend compte que quand il a les éléments offensifs, il essaie de les associer et il arrive à les associer ce coup-ci. Ne jamais oublier qu'il avait déjà tenté une équipe à quatre attaquants quand Benzema était revenu et que sur certains matchs ça avait été séduisant. Sauf que il n'était pas heureux de son équilibre défensif parce que les attaquants peut-être défendaient un petit peu moins que ceux d'aujourd'hui. Là aujourd'hui quand on se rend compte ce que fait Olysée défensivement, Barcola, Dembélé, même Mbappé, on peut être très confiant.
Les huitièmes de finale, ce sera donc contre le Paraguay, samedi 23h. C'est un adversaire coriace, voilà ce que dit Didier Deschamps au micro de Fabrice Hawkins, écoutez.
Cet ADN sud-américaine où ça accroche, c'est dans les duels, mais il y a des bons joueurs aussi. Hein. On peut pas se qualifier pour un huitième de finale de Coupe du Monde comme ça par hasard. Donc, on va prendre le temps. Ils ont été observés, même si j'ai vu la grande majorité du dernier match contre l'Allemagne. On va prendre le temps. Il y a deux jours pour savourer. Après, on basculera de nouveau.
Et après, on basculera de nouveau. Après, on ira. Après, on sera prêt. Ces huitièmes de finale contre le Paraguay, faut en attendre quoi, Eric?
Bon ben une qualification et un match où on se régale et où on souffre pas trop. Moi je veux bien. Hein, il faut toujours respecter les adversaires et notamment à ce niveau-là de la compétition. Mais je préfère rencontrer les Paraguayens que les Allemands parce que même si les Allemands n'ont pas une grosse génération, il y a quand même un gros passif avec nous. Et donc je préfère jouer les Paraguayens. Voilà. Mais bien sûr Didier sera là pour leur mettre la pression pour que on respecte cette équipe-là. Ça c'est normal.
On ose dire qu'on est ultra favori, peut-être avec l'Argentine?
Ah, pour le moment, j'ai vu pratiquement tous les matchs. On n'a pas vu encore tous les 16e et les équipes, les grandes équipes vont monter en pression comme nous. Mais pour le moment, ce que j'ai vu de l'équipe de France depuis le début et surtout hier soir, je pense qu'on fait peur à tout le monde. Bien sûr qu'on fait partie des favoris, mais moi je me mets à la place de nos adversaires. Ils doivent faire des insomnies. Ouais. Ah bah oui, si tu es défenseur paraguayen, là jusqu'à samedi, je pense que tu dois pas très bien dormir la nuit.
Et bah tant mieux, on va s'en réjouir. Merci.
Et tant mieux. Voilà.
Merci Eric Dimeco, ancien international tricolore, consultant à l'AMC Sport, RMC, radio officielle de la Coupe du Monde Paraguay-France. Ce sera samedi 23h et ce sera à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC. Il est 7h50, c'est mercredi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
En Espagne, Louis, 1 million de sans-papiers ont déposé une demande de régularisation pour le Premier ministre espagnol. L'immigration est nécessaire pour soutenir les besoins de l'économie. Vous êtes d'accord, Louis?
Alors, au risque de vous surprendre, je pense que Sanchez, ici, a raison. Je fais la voix de droite ou la voix de gauche?
C'est un peu la question que je me pose.
Un peu
vous êtes pour les régulariser?
Mais je pense que ça fait partie d'une politique migratoire qui a du sens et qui est cohérente.
Allez, vous nous le dites dans un instant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52. Dans un instant, la voix de droite, tu as d'abord le bonus. Mathieu, les Rolling Stones qui se rêvent sur grand écran.
25e album des Stones qui sort dans une dizaine de jours. Et Mick Jagger se prépare déjà la suite. Il verrait bien l'histoire du groupe adaptée au ciné. Bah oui, il y a eu les succès de Queen, de Elvis, de Bob Dylan. Michael qui continue de battre des records. Alors le chanteur aimerait voir un réalisateur se saisir de la vie des papis du rock. Bon, si vous voulez voir les Stones jeunes, il y a un de leurs derniers clips pour la chanson In the Stars que vous entendez. Grâce à l'IA, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood retrouvent les traits de leurs 20 ans. Foreign Tongue, le nouvel album, c'est le 10 juillet prochain. On y croisera Paul McCartney, Robert Smith, en attendant peut-être de faire revivre les 60 ans de carrière des Rolling Stones au cinéma.
RMC.
Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h52 sur RMC et RMC Story, la voix de droite comme tous les mercredis. Et c'est vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
En Espagne, plus d'un million de sans-papiers ont déposé leur demande de régularisation dans le cadre d'un plan qui avait été lancé par le gouvernement socialiste espagnol. C'est un plan à rebours d'autres pays européens qui, à l'inverse, durcissent leur politique migratoire. Pour vous, Louis, le premier ministre de gauche, Pedro Sánchez, a raison. Mais vous êtes la voix de droite ou la voix de gauche ?
Savourez cette matinée, matinée. À la limite, Sánchez fait du Sánchez et c'est pas tant ça qui m'intéresse. Un droitard vous dirait, c'est la gauche, la faiblesse face à l'immigration, comme d'habitude, on en a marre.
Moi, mais ce qui m'intéresse. Vous n'êtes pas un droitard, Louis.
Oh, que les mercredis et les lundis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Giorgia Meloni, la femme la plus à droite d'Europe occidentale qui dirige l'Italie. Celle qui devait fermer les ports, stopper les bateaux, renvoyer tout le monde et qui, dans le silence, a fait à peu près exactement la même chose que Sanchez. Elle a ouvert la porte à 500 000 d'étrangers en 3 ans, puis 500 000 pour le tour suivant. La patronne de la droite dure accueille la plus massive vague d'immigrants de travail récente de son pays. Ça devrait surprendre.
Vous accusez Mélanie de trahir ses électeurs ?
Au contraire. Je dis qu'elle fait la seule chose intelligente, c'est d'accepter ceux qui bossent et de refouler ceux qui bossent pas. Nous, en France, on en est à peu près à 700 000 personnes en situation irrégulière, peut-être même 900 000. Et savez-vous combien l'État en a éloigné de force l'an dernier sur 700 000 ? 15 000. 15 000 sur 700 000. À ce rythme, vider le stock prendrait 45 ans sans qu'aucun nouveau n'arrive jamais. C'est bien sûr physiquement, administrativement, diplomatiquement impossible. Et tout homme politique qui vous promet de tous les renvoyer vous ment.
Donc vous aussi, vous souhaitez une régularisation massive ?
Je propose qu'on arrête de se mentir. Et je vais vous faire un pari, notez-le bien d'ailleurs sur ce plateau, si le Rassemblement National arrive au pouvoir, s'il gagne l'élection présidentielle, il devra accepter une part d'étrangers, il y aura une part de régularisation aussi, pas par idéologie, mais par souci du réel, comme Mélanie. Parce que le jour où vous tenez les manettes, vous découvrez qu'on ne déporte pas 700 000 personnes avec une trottinette administrative et aucun accord de réadmission. Le discours de campagne se fracasse toujours sur ce que Bismarck appelait l'art du possible.
Bon, à quoi bon une frontière si c'est pour finalement tout régulariser, Louis Sarkozy ?
Alors je me permets une chose, je pense que vous mélangez le stock et le flux. Le flux, c'est ce qui entre. Et là, il faut être intraitable, on ferme la boutique, on réduit l'immigration illégale le plus que possible, on rend l'entrée la plus difficile possible.
Là, je vous reconnais un peu plus.
On tarie l'appel d'air. Là, c'est la voie de droite. Mais le stock, c'est ce qui est déjà. Et là, il faut être pragmatique. Celui qui travaille, qui paye, qui respecte nos lois et nos mœurs, autant le régulariser. Il est là pour rester. Regarde-le en face. C'est la seule politique sérieuse. Mélanie l'a reconnu, comme Sanchez d'ailleurs.
Quoi, c'est une forme de capitulation pour un homme de droite.
Alors déjà, le pragmatisme n'est jamais une capitulation. Et je dirais même plus, l'illusion n'a jamais sauvé une nation. L'immigration est le combat existentiel de notre génération. Aucun doute. Comment préserver nos pays, nos mœurs, notre peuple face à des vagues démographiques qui pèsent sur tout. Dans un combat existentiel, on choisit ses armes. Et nos armes les plus puissantes ne sont pas l'incantation, elles ne sont pas le mensonge. C'est le pragmatisme et c'est l'honnêteté. On sauve ce qu'on peut sauver. On régularise ceux qui travaillent et on concentre toutes nos forces, police, justice, expulsion, sur ceux qui le méritent vraiment.
C'est-à-dire ?
Ceux qui désobéissent à la loi. Ceux qui commettent des crimes. Ceux qui refusent de s'assimiler. Ceux qui refusent de s'intégrer, de devenir français, ceux-là dehors, tout de suite, sans état d'âme, immédiatement. Et c'est précisément en cessant de courir après le travailleur honnête qu'on libère les moyens de chasser le délinquant. Voilà l'usage intelligent de ressources rares, ne pas tirer sur tout ce qui bouge, mais viser uniquement ce qui nous menace vraiment.
Et après, on laisse les frontières ouvertes au nom de l'économie, on accueille ceux qui veulent venir bosser.
Non !
Ah !
On fait une politique de quotas, une immigration choisie. Et non subi, qui aide la France là où elle est faible, les métiers en pénurie, les métiers difficiles que plus personne ne veut faire, parce que regardez la démographie, elle s'effondre, c'est un fait, les berceaux se vident, les départs en retraite explosent, sans bras, des pans entiers de notre économie s'arrêtent, Sanchez le dit à sa façon, sans l'immigration, l'Espagne perdrait près d'un cinquième de sa richesse d'ici 2050, le chiffre est brutal et il est aussi parfaitement vrai, la question n'est donc pas immigration, oui ou non, cette question en vérité est parfaitement puérile, la vraie question est, qui, combien, pourquoi faire ? Alors régularisons ceux qui travaillent et on expulse ceux qui nous nuisent.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite. Demain ce sera la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflo, il est 7h57. Dans un instant, la météo et le journal. À la une du journal de 8h, ces chambres d'hôpitaux qui ont affiché 39 degrés. Oui, 39 degrés. Une patiente venue pour une sciatique qui est décédée à l'hôpital en raison de la chaleur. Ses proches témoignent et c'est très fort, vous l'entendrez dès le début du journal. Après le journal, il y aura l'économiste avec vous, Pierre Gondry. Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour Apolline.
Le taux du livret A va être revu à la hausse.
Oui, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie, mais on ne sait pas encore de combien.
Vous nous le dites dans un instant, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très belle journée à l'écoute d'RMC ou sur RMC Story la télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vous raconte ce matin la triste fin de vie d'une octogénaire hospitalisée pour une sciatique la semaine dernière. Elle est morte de chaud à l'hôpital, faute d'équipement, et alors qu'une troisième canicule se précise pour la semaine prochaine. On va parler dans ce journal du calendrier déjà de l'élection présidentielle l'année prochaine, second tour le 2 mai, au lendemain de la fête du travail. Ça fait réagir. Et on reviendra aussi sur la victoire des Bleus 3-0 contre la Suède cette nuit. Les Bleus qui joueront contre le Paraguay samedi en 8e de finale du Mondial.
Les canicules à répétition mettent à mal notre système de santé et la preuve, ce matin, avec ce témoignage RMC.
Oui, le scénario d'une troisième canicule se précise, vient nous dire Géraldine, pour la fin de la semaine. Et alors le gouvernement croise les doigts. Il a commandé en urgence des milliers de ventilateurs pour y faire face dans les hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la triste réalité, on peut y mourir de chaud à l'hôpital en France. C'est ce qui est arrivé à une octogénaire la semaine dernière dans un hôpital du nord de la France. Triste fin de vie que nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
Entrée pour une sciatique, sous morphine, Monique DP sur son lit, dans la pénombre et l'air chaud d'un seul ventilateur, décrit son auxiliaire de vie.
C'est extrêmement chaud, vraiment. Même moi, c'est suffocant.
Un climatiseur est acheté par la famille avant une dernière visite.
J'ai mis le climatiseur en route et là, il y avait écrit 39. Je me dis que c'est complètement dingue. Je passe des glaçons dans son dos pour la rafraîchir au maximum. Je dis, et là, t'as à boire. Il faut que tu te reposes, tu reprends des forces et demain matin, j'arrive. Et il n'y aura jamais de demain matin.
La culpabilité de celle qui avait fini par appeler Monique mamie.
Moi, je suis dévastée. Pardon.
Et la colère de sa fille.
En fait, on est sonné en 36 heures. Ma mère est morte en 36 heures pour une sciatique. Oui, elle avait des pathologies. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, il n'y avait rien. C'est la chaleur qui l'a fait décompenser, en fait.
Catherine revient sur l'annonce du décès à 4 heures du matin. Sans explication, dit-elle, elle raconte cet appel de la chambre mortuaire qui déborde et ne peut accueillir un corps de plus.
Ça paraît irréel. Quand on dit qu'il va y avoir 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, c'est pas des petits bâtons qu'on fait sur un mur. Ce sont des familles qui sont dévastées.
Contacter l'hôpital n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Alors, puisqu'on parle du bilan de ces canicules, on sait que celle du mois de mai a causé au moins 300 morts de plus que la normale selon une estimation du Santé publique France dans les 17 départements qui étaient concernés, donc en mai. Et on parle d'au moins un millier de morts pour celle du mois de juin. Il y a toujours 4 départements du Sud-Est et de la Corse qui sont en alerte orange ce matin. Et à ça s'ajoute le risque d'incendie au niveau, ça y est, le plus élevé dans 6 départements tout autour de la Méditerranée. Ça va des Pyrénées-Orientales jusqu'au Bouches-du-Rhône en passant par le Gard où une centaine de pompiers sont mobilisés en renfort aujourd'hui. C'est ce que nous dit Cécile Dussert, écoutez-la, des sapeurs-pompiers dans ce département.
On a plus de 30 km/h de vent, une température supérieure à 30 degrés et un taux d'hygrométrie inférieur à 30, donc le fameux triangle totalement négatif pour nous. Donc on en appelle à la vigilance totale de la population. L'emploi du feu est d'ores et déjà interdit depuis le 15 juin et donc pas de travaux effectivement parce que la plupart des départs de feu de végétation sont d'origine humaine et encore une fois par négligence.
Voilà pourquoi évidemment de nombreux massifs forestiers du Sud sont fermés, interdits d'accès au public. C'est le cas par exemple pour les Calanques de Marseille ce matin. Tiens, Marseille, où on apprend à l'instant une nouvelle vague d'interpellations dans l'enquête sur la mort de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi, ce militant anti-drogue qui avait été assassiné il y a 8 mois maintenant sur le parking d'une pharmacie à Marseille. 4 suspects ont été interpellés hier. On en a donc l'officialisation ce matin. On a enfin le calendrier de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il en sera évidemment question tout à l'heure à 8h30 sur RMC avec le maire LR de Cannes, David Lisnard, candidat et qui sera l'invité d'Apolline. Premier tour donc de cette élection présidentielle le 18 avril, le second le 2 mai. Et alors c'est un calendrier qui fait réagir, hein, Cyprien Pézeril.
Oui, le premier tour aura lieu en pleine vacances de printemps pour toutes les zones. Quant au second, il se déroulera alors que les académies de la zone B, Aix, Marseille, Nantes ou Amiens, seront encore en congé. Et cela pose donc forcément la question d'un impact sur la participation. Ce second tour aura lieu surtout au lendemain des manifestations syndicales du 1er mai, un moment très politique durant lequel les chefs de la gauche ont pour coutume d'être dans les cortèges. Et ce n'est pas neutre, nous serons alors en période de réserve. Par ailleurs, le 1er mai, il y a aussi le risque de potentiel débordement. De telles images pourraient-elles avoir une influence France en dernière minute sur le vote des Français. L'exécutif en tout cas a tranché après avoir longuement tergiversé, ce qui devrait soulager certains candidats impatients qui vont enfin pouvoir inscrire ces dates sur leur premier tract de campagne.
Alors en attendant, on est le 1er juillet ce matin, un passage qui s'accompagne de changements. C'est aujourd'hui que les jeunes parents peuvent bénéficier du tout nouveau congé de naissance décidé il y a 2 ans. Une durée de 2 mois, ce congé après les congés maternité et paternité et jusqu'au 9e mois de l'enfant, rémunéré 70% du salaire le premier mois, puis 60% le second. Autre changement en ce début de mois de juillet, les allocations chômage qui ne sont pas revalorisées. C'est une première depuis 10 ans. C'est une annonce de l'UNEDIC en expliquant que l'état des finances publiques ne le permet pas. 3 millions de personnes quand même sont concernées et ça met en colère Lydie Nicole, écoutez de la CFDT.
Je trouve ça parfaitement inacceptable. La moitié des demandeurs d'emploi seulement est indemnisée par l'assurance chômage. Et sur cette moitié, donc ça représente à peu près 2 millions de demandeurs d'emploi, 56% d'entre eux touchent moins de 1 000 euros net par mois. Donc on se parle de personnes qui sont en grande précarité. Et là, cette décision, elle va aboutir pour beaucoup d'entre eux à basculer dans la pauvreté.
Il est 8h06 sur RMC et la presse étrangère en sens les bleus ce matin.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors je vous lis ce que disent les journaux ce matin chez nos voisins après la victoire 3-0 de la France contre la Suède hier soir, plutôt cette nuit à New York, avec une supériorité qui devient obscène. Ça c'est ce que dit la presse espagnole. Et un football tout droit sorti du guide Michelin. Ça c'est ce que disent les Allemands en saluant à nouveau le doublé de Kylian Mbappé et aussi le match incroyable de Michael Olise. Et c'est aussi l'avis de ses supporters à la sortie du stade à New York.
C'est un niveau supérieur, c'est une classe supérieure. Tout ce qu'ils font, c'est un niveau dessus. On a certains joueurs qui font des fulgurances phénoménales. Ça joue trop bien, c'est trop à l'aise. Olise au milieu, il dirige tout. Mbappé devant, ça va trop vite. Même Barcola ou Doué, ça va trop vite.
Pour moi, c'est la meilleure du tournoi. Sur le papier, il n'y a pas photo.
Avec 3 buts, il y a une domination qui est quand même claire et nette sur chaque match. On prend pas le bouillon, ça sent bon. Ouais.
Depuis le début de la compétition, là, on montre vraiment que des bons résultats. On est vraiment vraiment fort. Là. C'est énorme. On va aller super loin. On chope l'Argentine en finale et on se les fait.
Voilà, et même la presse argentine nous voit comme les grands favoris pour la victoire finale. Alors les Bleus sont rentrés dans la nuit à leur QG de Boston où ils ont été accueillis par une haie d'honneur. C'est là donc qu'ils vont préparer le 8e de finale qui aura lieu samedi soir 23h à Philadelphie contre le Paraguay. Jean-Louis Tour, vous êtes encore avec nous ce matin, c'est vous qui avez commenté le match cette nuit sur RMC. France-Paraguay, ça rappelle évidemment la Coupe du Monde 98 et tout le monde sait comment ça s'est fini.
Oui, pour cette nouvelle étape, Didier Deschamps va forcément revoir des images de 1998. C'était déjà en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est à Lens. Les Bleus ont affronté le Paraguay de l'impressionnant gardien José Luis Chilavert. À l'époque, le sélectionneur et ses partenaires s'étaient cassé les dents sur la défense jusqu'au but en or de Laurent Blanc en prolongation. Mais pas question pour Didier Deschamps de se servir de son passé de joueur pour préparer le match.
Ils étaient pas nés en 98. J'espère que ça sera moins dur. Même si je sais cette qualité du Paraguay, il y a de bons joueurs et puis il y a cette agressivité, ils ont ça dans l'ADN, de savoir bien défendre, s'accrocher. Je vais les laisser tranquilles parce qu'il faut bien récupérer, mais quand on basculera, oui, il y aura une préparation du match qui est un peu spécifique quand on joue une équipe sud-américaine.
Sorti 3e de son groupe derrière les États-Unis et l'Australie, le Paraguay a éliminé l'Allemagne en 16e de finale, après une séance de tir au but et après surtout avoir montré des qualités défensives indéniables. Mais la France a probablement plus d'armes en attaque que les Allemands pour faire sauter le verrou paraguayen samedi.
Alors on est à la moitié, hein, ça y est, des 16e de finale. Cette nuit, le Mexique s'est qualifié 2-0 contre l'Équateur. Et alors ce soir et la nuit prochaine, très beau programme qu'on vivra sur RMC. On va revoir l'Angleterre à 18h contre la République démocratique du Congo. La Belgique face au Sénégal un petit peu plus tard. Et dans la nuit suivante, les États-Unis contre la Bosnie.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, mais c'est avec Pierre Rondeau ce matin. Bonjour Pierre.
Bonjour Apolline.
Hier, Roland Lescure, le ministre de l'économie, a annoncé à mon micro côté BFM oui. TV que le taux du livret A allait augmenter.
Oui, alors aujourd'hui, ce taux est fixé à 1,5%, soit l'un des taux les plus faibles depuis 4 ans. Et il devrait augmenter à partir du mois d'août afin de faire bénéficier 58 millions de titulaires du livret A, l'épargne préférée des Français. C'est une bonne nouvelle. Alors pour le pouvoir d'achat, on verra après, mais une bonne nouvelle pour le rendement de l'épargne qui va améliorer le rendement des épargnants.
ce nouveau taux, est-ce qu'on sait de combien il sera ?
Alors, on va pas se lancer parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations. Roland Lescure, le ministre de l'économie, a annoncé que d'ici le 15 juillet, on allait avoir de plus amples informations et acter une hausse dès le mois d'août. Mais si on se base sur la méthodologie particulière du livret A, on peut estimer une augmentation jusqu'à 2%, voire dépasser les 2%. Le taux du livret A, le calcul du taux du livret A respecte une méthodologie bien précise basée sur l'inflation des 12 derniers mois. Deux fois par an, on recalcule le taux en février et en août à partir de l'inflation de la période précédente. Entre février 2025 et février 2026, l'inflation moyenne était de 1,1%, ce qui avait amené le gouvernement à faire baisser le taux du livret A. Mais depuis le conflit en Iran et la hausse du prix des matières premières, l'inflation est repartie à la hausse à 2,4%. Donc, effectivement, évidemment, le taux va augmenter. Mais de combien ?
Le livret A, c'est vraiment un bon placement ou pas ?
Alors, si vous voulez financer l'investissement public, si vous voulez avoir une épargne immédiatement disponible, plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur un compte courant, c'est une bonne chose. Maintenant, sachez que cette épargne est très peu rémunératrice et parfois au rendement négatif si on prend en considération l'inflation. Les spécialistes bancaires estiment, recommandent de conserver 2 à 3 fois son salaire sur un livret A. Et si vous avez une capacité financière et une capacité d'épargne plus importante, tournez-vous vers des rendements risqués mais mieux rémunérés, comme les ETF, l'assurance vie ou le plan épargne action.
Merci Pierre. Les chiffres de l'énergie, comme chaque matin sur RMC, ça monte ou ça descend ?
Alors, sans plomb 95, ça augmente très légèrement de 1,89 à 1,90.
Ah, ça repart en haut !
Mais de 1 centime.
Ouais, mais enfin,
voilà.
Tout de même.
Tout de même, mais 1 centime. Le gazole, 1,88, on stagne. Le baril pétrole, il a aussi augmenté 72,80 hier, 73 dollars, pardon, aujourd'hui. Et le gaz, 42 euros hier, 43 euros 44 aujourd'hui.
Merci Pierre, 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est le retour de l'humour avec Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, notez que mon invité dans le face-à-face, ce sera le candidat à l'élection présidentielle et maire de Cannes, David Lisnard. Juste après, il y aura le choix de la rédaction, Mathieu.
Seulement 6 enfants sur 10 à l'école primaire ont suivi des séances des programmes d'éducation à la vie affective. C'est pourtant obligatoire. C'est un chiffre RMC. Et puis la France file en 8e de finale. Les toutes dernières infos de la Coupe du Monde, tout ça à 8h50.
À 8h50, mais d'ici là, en effet, il y a Arnaud Demange et il y a le face-à-face. On se retrouve dans un instant, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h13 sur RMC, l'heure d'Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour mes amis français. Et oui, c'est nous les Français. C'est nous qu'on a gagné hier contre la Suède. Les Bleus ont battu les Suédois. Je les ai encouragés toute la nuit, les Bleus. J'étais là... La canicule plus les matchs la nuit, on en veut à notre sommeil en ce moment. Hein. Alors la Marseillaise était splendide au niveau de l'interprétation. Et l'hymne suédois est très sympa aussi. Ça mettait une petite ambiance, c'était cool. La Suède était très impressionnante sur le papier avec Gabriel Gudmundsson, Herman Johansson, Alexander Bernardsson, Hjaltel Efonkisson, Balad Akarkasson, Pizza Kalsson, Coude Klaxon, leur sélectionneur Harley Davidson. Que dire de ces Masson, chanson police.
Sur Sonne.
Oui, vu.
Je l'ai.
Pleine lucarne, un coup franc de Messi. Non mais c'était un beau match que vous avez donc pu suivre sur RMC.
Et oui, avec une très belle passe de Chris Paul vers Ikea qui vient de se faire démonter par Olysée. Le ballon qui revient dans les pieds de Volvo qui essaye de faire le break. Et c'est récupéré par la charnière centrale, Bang et Olufsen. Et une relance bien captée par Nokia. Je sais, Nokia c'est finlandais, mais j'avais envie de faire la blague.
Moi j'achetais.
Elle est où la liberté de l'auteur alors ?
Licence poétique.
C'est pour toi Victor Hugo, voilà. Coluche, Fred Hermel. Alors, Emmanuel Macron, je pense qu'il a regardé le match. Enfin non, d'ailleurs, apparemment il voit plus rien. Il a encore son problème à l'œil. Vous avez vu, il a ressorti les lunettes d'aviateur. Oui. Il va finir son quinquennat avec un labrador et une canne blanche à ce point-là. Ou alors il s'est dit, avec la canicule, Trump, il va à nouveau vouloir le Groenland, je laisserai pas faire, et zou, il remet les lunettes. Voilà. C'est un peu comme Batman qui enfile sa combinaison. Allez Brigitte,
Direction la Macron cave pour prendre la Macron mobile. Nous allons macroner la tronche à Donald Trump. Tu as les Macron boomerang et le Macron phone.
Ouais, j'ai le Macron phone, ouais. C'est quoi ces textos à une iranienne?
Bah enfin, Brigitte, c'est pas du tout ce que tu Macron crois. Macron aïe.
C'est les choux,
il a des battes boomerang et une batte mobile.
Restons sur la Coupe du Monde. Hein. Donc la FIFA a accusé la Corée du Nord de diffuser la Coupe du Monde sur la télévision d'État sans avoir payé les droits.
C'est l'hymne de la FIFA.
Voilà.
Donc ce conflit oppose... Non, c'est la Corée du Nord. Oui. La Corée du Nord. Ce conflit oppose, voilà, vous l'avez dit, une dictature prête à tout pour de l'argent et qui se croit au-dessus des lois à la Corée du Nord. Et en fait, Kim Jong-un a argumenté en disant... C'est une compétition mondiale, vous n'avez pas le droit d'en rendre la vision payante. J'imagine la tête des juristes de la FIFA qui ont dit « Bon, on va devoir contre-attaquer. Robert, tu pars à Pyongyang pour récupérer les droits. Moi » Moi ? Pourquoi moi ? Georges, tu veux pas y aller ?
Ben non, et pourquoi moi ? Le nouveau, là, Kevin Floury, tu veux pas y aller ?
Oh ben non ! J'ai quitté BFM parce qu'il me faisait commenter la météo par 55 degrés sur des toits en zinc, c'est pas pour aller en Corée du Nord ! Oh Kevin, c'est vraiment la victime du moment, lui.
Dans une semaine, le mardi 7 juillet, on aura les résultats du procès en appel de Marine Le Pen.
Et oui, on saura qui sera le candidat RN à la présidentielle, Marine ou Jordan. Suspense, suspense, est-ce que notre première dame sera une princesse ? Maria Carolina de Bourbon, des Deux Siciles, des 50 nuances de grès et des 101 dalmatiens. Est-ce que, si c'est Marine comme première dame, on aura un chat? Ce serait sympa, un chat à l'Élysée, un chat du RN qui irait s'expliquer sur les plateaux de CNews en face du chat de Christine Kelly. Miaou. Miaou, miaou.
Miaou, 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 miaou.
Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou.
Ah, je l'ai reconnu. Miaou, miaou.
Il y a aussi le chat de Philippe de Villiers. Après, adopter un chat, bon, c'est, enfin, une chat, bon, un chat.
Ouais.
C'est quand même, enfin, bon, non, c'est quand même mieux que Louis Alliot. Enfin, tu me proposes d'adopter un chaton ou Louis Alliot. Je réfléchis pas très longtemps. Je me vois très mal revenir à la maison. Chouchou, j'ai une surprise. Devine qui va vivre avec nous. Non, Louis Alliot. Il était abandonné par sa maîtresse, alors je l'ai adopté. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un Louis Alliot ? Bah, je sais pas, jouer avec, le carasser, le car...
Bon, je vais me dire, il est propre au moins ? Il est castré ?
Non, il est perpignané.
Oh non !
Coluche ! Fred Hermel !
Et il perd ses poils ?
Non, ça c'est Édouard Philippe.
Oh non, autre...
Voilà, alors on n'a pas analysé tous les enjeux du procès Le Pen, mais la chronique est finie. Pour des infos intelligentes, faudra demander à Alain Duhamel.
Oh, miaou ! Miaou, miaou.
Bah, tu sais qu'Alain Duhamel, j'ai calculé, vous savez combien ça fait en année chat, Alain Duhamel ? 602 ans. C'est beaucoup d'années, hein. Allez, à demain.
Il a mon
calcul.
Oui,
j'ai calculé.
Il est 8h10.
Seigneurie, avec les peintures Seigneurie, vos chantiers de vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h19 et au 32-16, il y a Oumam qui nous appelle de Caen. Bonjour.
Bonjour
Apolline.
Comment
allez-vous ? Vous êtes directeur d'un point P. Alors ça c'est pas Estelle moi, mais cela dit, franchement, je suis très contente de vous accueillir. Oumam, dites-moi, vous vouliez réagir à la question des isolations. Vous avez entendu tout à l'heure les fameux DPE qui en réalité s'occupent uniquement de lutter contre le froid, mais pas contre la chaleur. Et on se retrouve avec des vrais problèmes d'isolation. Hein.
Alors pas forcément, en fait, c'est ce que j'expliquais au standard tout à l'heure. Le DPE a pour principe de, pour être très synthétique, isoler, ventiler, chauffer. D'accord.
Okay.
Si on isole et qu'on ventile, donc c'est-à-dire qu'on va isoler nos cloisons correctement et aussi nos plafonds, ce qui veut dire qu'en hiver, en fait, on a une température qui n'est pas perdue. Et c'est-à-dire qu'aussi en été, la chaleur, en théorie, rentre le moins possible dans la maison. Donc dans isoler, on a donc la laine et on a aussi également toute la partie menuiserie qui est extrêmement importante parce que par les menuiseries, on va aussi surchauffer la maison si elles sont pas assez épaisses.
Okay.
Ce que je voulais dire en intervenant, c'est que c'est à l'image un peu de nos politiques depuis quelques années, et c'est pas que le gouvernement Macron ou autre, c'est vraiment toutes les politiques. C'est dès qu'on identifie en fait un problème, on va surréagir en créant des règles. Mais d'ailleurs, quand on crée ces règles, on va pas jusqu'au bout, notamment dans le contrôle. On parlait de DPE tout à l'heure, et il y a un artisan qui a appelé
couvreur.
Absolument. Qui est intervenu pour dire, bah oui, aujourd'hui, quand on fait un DPE, on peut pas aller tout vérifier. C'est normal parce que quand on fait un DPE, les cloisons sont déjà pesées. On voit pas
Donc on va pas vérifier derrière, ouais.
Et on peut pas vérifier derrière. En fait, la vraie règle qu'il faut imposer, je pense, aujourd'hui, dans cette règle de DPE, c'est d'aller contrôler avant la pose des cloisons. Mmh. Et là, on verra si on met de la vraie laine épaisse, qu'aujourd'hui, on peut mettre n'importe quoi, de la laine en 45, en laine de verre qui est comme une éponge, qui va absolument rien absorber, absolument rien garder. Et si on faisait ça, juste en respectant ce principe-là de base du DPE, on n'aurait pas de
pouvoir. Mais est-ce que le problème, ce que disait un peu tout à l'heure la patronne de PAP, c'est qu'elle disait aussi, on a voulu faire des normes sur un point, mais on a dégradé les autres. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous dites, on identifie un problème, on veut l'améliorer, donc on fait une norme pour celui-là, mais on se rend pas compte que ça peut avoir des conséquences à l'inverse. Par exemple, vous dites, ça protège de la chaleur. Mais une fois qu'elle est rentrée, en revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à la faire sortir.
Exactement, et c'est là où on ne voit pas jusqu'au bout encore de cette sub qui est à la base une très bonne idée. Aller jusqu'au bout, c'est on isole, on ventile, mais derrière chauffer, c'est une fois que j'ai mis des radiateurs électriques, on va mettre des pompes à chaleur, ça peut être subventionné également.
Ou même moi, je veux venir dans votre magasin. J'ai l'impression que vous allez m'expliquer tout, mais ultra bien, quoi. Franchement,
il faut aller jusqu'au bout. C'est ça qui est important, c'est aller jusqu'au bout d'un chantier. Si on chauffe une maison avec une pompe à chaleur l'été, bon, en fait, cette même pompe à chaleur peut servir de climatisation en hiver. Et on refroidira la maison par l'intérieur. Et parce qu'on a une bonne isolation, elle ne sortira pas à l'extérieur.
On fera les deux et on gérera l'hiver et l'été. Voilà. Merci beaucoup, Oumam, qui est donc directeur d'un point P à Caen, dans le Calvados. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story dans un instant. C'est le face-à-face. Et mon invité, c'est David Isnard, le maire de Cannes et candidat à la présidentielle. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et des nouvelles des Bleus tout de suite. Les Bleus qui sont de retour à l'arc de base de Boston. Ce matin, ils sont rentrés dans la nuit après leur victoire 3-0 à la Coupe du Monde contre la Suède. C'était hier soir à New York. Avec encore un doublé de Kylian Mbappé, c'est son troisième du mondial. Et un nouveau but de Bradley Barcola. Les Bleus qui affronteront le Paraguay en huitième de finale. Ce sera samedi 23h à Philadelphie. L'autre résultat de la nuit à la Coupe du Monde, c'est la victoire du Mexique 2-0 contre l'Équateur. Ça se passait à Mexico. Il y aura trois nouveaux 16e de finale entre ce soir et la nuit prochaine. On vivra tout ça sur RMC, notamment l'Allemagne à 18h contre la République démocratique du Congo. Du nouveau ce matin dans l'enquête sur l'assassinat de Mehdi Kessassi il y a 8 mois à Marseille. Vous vous souvenez de la mort du frère d'Amine Kessassi, qui figure de la lutte contre le trafic de drogue dans la deuxième ville de France. Eh bien, 4 nouveaux suspects ont été interpellés hier, en plus des 6 qui avaient été mise en examen à la fin du mois de mars. Le bilan des canicules, celle du mois de mai, qui a causé au moins 300 morts de plus que la normale, selon Santé publique France, dans les 17 départements concernés. On parle d'au moins 1 millier pour celle du mois de juin. Ce matin, à l'instant, il y a l'Espagne qui en attribue 1000 de plus que la normale en raison de la chaleur. Alors, il y a toujours 4 départements du Sud-Est et de Corse qui sont en alerte orange pour la chaleur ce matin. Ils le seront au moins jusqu'à demain. À ça s'ajoutent 6 départements au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie des Pyrénées-Orientales aux Bouches-du-Rhône, donc auprès de la Méditerranée. Les calanques fermées, interdites d'accès au public. C'est le vent qu'on redoute. Il fera encore très chaud aujourd'hui dans le sud de la France. Quelques températures. 34 à Montpellier, jusqu'à 37 à Toulon.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité est candidat à l'élection présidentielle. David Isnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Quel est le projet, tiens, de David Isnard pour la France? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Merci d'être à mon micro pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Cannes, vous êtes président de l'Association des maires de France et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Très nombreuses questions à vous poser, notamment sur ce qui s'est passé sur le terrain pendant la canicule qui vient de s'achever, mais vous êtes encore en alerte d'ailleurs dans le sud-est, alerte orange, et les fortes chaleurs qui arrivent, les maires qui ont été en première ligne face aux difficultés. Mais je voudrais d'abord que l'on revienne sur ce qu'il se passe à partir d'aujourd'hui. On vient de l'apprendre, c'est d'ailleurs nos confrères du Canard Enchaîné qui l'ont découvert. Il y a un vide juridique qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet, les mineurs auteurs de crimes, on parle de crimes, hein, les mineurs auteurs de crimes ne pourront plus rester en détention préventive. C'est un vide juridique qui n'a pas été comblé et c'est une absurdité, j'allais dire, de plus dans le système. Et les magistrats qui se disent très inquiets.
Oui, vous avez répondu dans votre question. C'est la énième expression d'un système à bout de souffle qui manque totalement de bon sens. Je sais que cette expression vous fait réagir à chaque fois, mais qui manque totalement de bon sens qui prolonge l'impuissance publique. La crise de notre démocratie, c'est une crise avant tout, plus que de la représentation, longtemps que je le dis. Tout ensuite, de carence dans l'exécution des choses. Les magistrats ont raison de souligner cette carence juridique, donc politique. Les politiques...
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec vous les toutes dernières infos sur le Mondial après la qualification des Bleus pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On est enthousiastes. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec Bérangère Bocquillon. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société d'RMC. Les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les élèves de la maternelle à la terminale. Bon, ils ont été mis en place en septembre dernier. On en avait beaucoup parlé, hein, à raison de 3 séances obligatoires par an. Vous nous révélez ce matin une information RMC. Seuls 6 enfants sur 10 en primaire, seuls 6 enfants sur 10 ont suivi ces 3 séances, des séances qui sont pourtant obligatoires.
Ah oui, c'est comme si je vous disais que seulement 6 élèves de primaire sur 10 ont suivi tout le programme de maths. Hein, car depuis cette année, l'éducation à la vie affective, c'est un programme scolaire au même titre que les autres. Alors qu'est-ce qu'on y apprend ? En primaire, par exemple, les enseignants expliquent aux enfants que leur corps leur appartient, l'égalité entre les filles et les garçons, la notion d'intimité, de consentement, ce qui fait que ces programmes protègent les enfants et entraînent même une libération de la parole. Écoutez bien ce témoignage d'une directrice d'école en Île-de-France, qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué plusieurs confidences d'enfants.
4 enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant, qui m'en a parlé. Un des exemples, un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Et après, moi, je n'auditionne pas les enfants, hein, je lance des informations préoccupantes. C'est factuel, hein, on ouvre les guillemets et on cite.
Ces cours d'éducation à la vie affective, il faut le rappeler, hein, c'est un sujet de protection de l'enfance.
Ouais, à l'école primaire comme au collège et au lycée où il y a d'autres enjeux comme par exemple lutter contre les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Audrey Chanona est responsable des questions d'éducation sexuelle pour le syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, mais aussi principale de collège à Cognac.
J'ai traité, par exemple, cette année, 2 affaires avec 3 mois d'écart d'un élève de 3e qui a eu des relations sexuelles avec une jeune fille pour pouvoir, en fait, imiter ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a abouti à 2 affaires de viol. Parce qu'en fait, pour lui, c'était complètement normal de pas accepter le consentement. Tant pis si la jeune fille disait non, parce que de toute façon, à la fin, elle allait dire oui. Voilà. Et ça s'est terminé par 2 signalements au procureur.
En fait, quand on entend ces témoignages, on s'étonne parce qu'on comprend bien l'importance de ces cours. Mais on s'étonne qu'il n'y ait pas plus de 6 élèves de primaire sur 10 qui aient bénéficié des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle.
Alors la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez de formation et tous les enseignants ne sont pas à l'aise avec ces questions. Les parents le savent, hein, c'est pas toujours simple d'aborder ces sujets. Et pour Audrey Chanona, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Très vite, certaines académies se sont retrouvées débordée par le fait qu'elle n'avait pas accès de formateurs, ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Alors, il y a un autre frein, peut-être, hein, au déploiement de ces programmes, l'opposition de certains parents.
Ouais, mais là, surprise, hein, alors que le syndicat de la famille ou les parents vigilants proches d'Éric Zemmour étaient critiques de ces programmes, il y a finalement très peu de parents qui se sont plaints des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est ce que me rapportent plusieurs directeurs d'établissement.
Pour toute école, il y a un parent qui a dit que son enfant ne viendrait pas à l'école si on parlait de ça.
On a expliqué en début d'année en réunion de rentrée au niveau des parents qu'on allait dispenser ce type d'enseignement et on n'a pas eu de réaction plus que ça. Je pense que les parents nous font vraiment confiance ici et puis je pense que la société évolue. Je pense que c'est une protection pour les enfants et que ça, les parents maintenant le comprennent bien.
Des directeurs qui estiment que ces séances doivent être une priorité. Pour rappel, en moyenne, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste, selon la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants.
Allez, je rappelle cette info RMC que vous révélez ce matin. 6 élèves de primaire sur 10 seulement ont suivi les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle au complet. Merci Bérangère Bocquillon, chef du service Société. L'équipe de France est en 8e de finale de la Coupe du Monde.
RMC, le Mondial de Virginie.
Et Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde. Et ce matin, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de la Suède cette nuit. Hein. Suède, 3 buts à 0 hier soir.
Masterclass, supériorité écrasante, spectacle éblouissant, voilà ce qu'on lit dans la presse étrangère. Ce matin, le monde entier sous le charme et surtout de nos artistes, Mbappé, Olise, Dembélé. Enfin, tout le monde à part Yamin Lamal. Le joueur espagnol dit, lui, que la France ne peut pas être meilleure que l'Espagne. Il rappelle que c'est bien l'Espagne qui a gagné l'Euro 2024, alors que le géorgien du PSG, Kvaratskhelia, a tweeté « Allez les Bleus, on va la ramener à la maison » avec une photo de Dembélé et Barcola, qui sont ses coéquipiers au PSG, évidemment.
Les supporters des Bleus ont conquis New York.
Alors, on les avait vus à Times Square. Hier, ils ont investi, avant le match, le pont de Brooklyn pour mettre l'ambiance dans la rue avec vue sur le pont. C'est la photo d'une affiche mythique du cinéma américain. Il était une fois en Amérique, c'est presque le titre qu'on a envie de donner à l'aventure des Bleus à la Coupe du Monde. On verra qui sera Robert De Niro. En plus, le 8e de finale des Bleus, c'est samedi le 4 juillet, fête nationale américaine. On part à la conquête de l'Ouest. J'ai préféré mettre ça plutôt que Joe Dassin. L'Amérique, ça rappelle de mauvais souvenirs. 93 et la non-qualification pour le premier mondial aux États-Unis.
Le secrétaire américain à la sécurité intérieure a fêté l'élimination de l'Iran.
Il a avoué avoir esquissé des pas de danse, chanté quelques morceaux, bu quelques verres pour célébrer la sortie de l'Iran. J'étais très heureux que l'équipe iranienne parte, dit-il. Jamais on a vu une équipe nous poser autant de problèmes. Oui, enfin, les Iraniens disent la même chose des Américains. Ils ont même porté plainte auprès de la FIFA en estimant être l'équipe la plus maltraitée de la Coupe du Monde.
Neymar parle plus qu'il ne joue dans cette Coupe du Monde.
Il ne marque pas, il ne joue pas, mais il cause. Oui. Neymar a le temps d'observer tout ce qui se dit autour de la sélection brésilienne et le contre-attaque. Samba. Et il s'en prend un économiste allemand qui avait créé un modèle de prédiction du vainqueur de la Coupe du Monde. Il avait trouvé 2014, 2018, 2022, mais là, il avait donné les Pays-Bas, donc il avait tort. Il avait aussi prévu l'élimination du Brésil par le Japon. Raté. Encore raté, c'est le commentaire de Neymar, comme quoi il s'est taclé. Hein.
Et puis, il y a un petit emballement autour du 16e de finale entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo ce soir.
Alors, il y a un ancien joueur de la RDC, Gabriel Zakuani, qui n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, c'est l'événement le plus important de l'histoire du pays. Ça surpasse le mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre. Ça s'appelait comme ça en
1974. Toutes choses égales par ailleurs.
Voilà, n'est-ce pas? Et puis la réponse des Anglais, c'est pas sur le terrain, c'est pas le match en lui-même, c'est Jude Bellingham au service de Sa Majesté. Le milieu de terrain anglais, je verrais bien en prochain James Bond. Honnêtement, si jamais les Anglais venaient à gagner la Coupe du Monde, vu qu'ils ne l'ont pas fait depuis 60 ans, je suis sûr que c'est possible pour lui.
Pourquoi pas 0-0-7 en Jude Bellingham ou l'inverse. Merci Virginie Fulpin. Paraguay France samedi 23h, la suite des 16e de finale ce soir sur RMC bien sûr. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Déjà, je vous dire qui est là. On a Abel Boyi, l'éducateur, Fatima Ibounoua, la prof de français, Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie. Avec Fatima, on verra si ses élèves, ils arrivent plus avec des maillots de foot au lycée ou Mbappé en classe. C'est façon de parler, bien sûr. On reviendra sur le petit Hamza, vous savez, le gamin du canal Saint-Martin. Comme on a deux profs et un éducateur, c'est de savoir si Hamza, c'est une graine de voyou ou si c'est juste un petit déconneur. Bah, vous savez ce qu'elle nous a dit, Fatima, ce matin, la prof de français, elle dit, mais moi, dans mon collège, des Hamza et dans ma classe, j'en ai 3 ou 4 comme ça. Et c'est le problème, c'est de les reprendre, surtout quand les parents sont pas derrière. Bah, vous venez en parler avec nous au 32-16.